Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga, et oui c'est le lundi de Pâques, mais on est là quand même, et on a des beaux cadeaux, on n'a pas du chocolat, des gâteaux, tout ça, mais on a des interviews exclusives. Chris est là.
Salut à tous.
Alors raconte-nous tout, qu'est-ce que va-t-il entendre tout à l'heure?
Alors on vous l'avait promis, hein, donc enfin l'interview de Jean-Marc Anthony Cabella, interview exclusive hein, puisqu'il a donné peu d'interviews hein, depuis qu'il participe au générique TV Party. Alors il va tout nous dire sur sa carrière, ses projets, etc. Vous allez voir, un super chanteur, donc très gentil, on a passé un très bon moment. Déjà je le remercie vivement de nous avoir permis de faire cette interview. On a passé vraiment un bon moment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, beaucoup de talent et qui a vraiment une belle carrière en perspective. Donc, je vous propose de découvrir cette interview. Donc, elle sera en deux parties, en fait. Première partie, puis après, on vous passera un titre de Jean-Marc Anthony Cabella. Un titre tiré du CD Pokémon, donc dont tu avais diffusé de larges extraits il y a quelques semaines déjà.
Ouais, il y a deux semaines, je crois, un truc comme ça.
Donc pourquoi ce titre? Tout simplement puisque.
Parce que c'est j'entends Pokémon, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait rapprochement.
Voilà, je sais pas, j'avais pas dit que c'était.
Je crois pas. Je crois que tu l'as omis.
Le chanteur de Pokémon, mais pas que, comme vous pourrez l'entendre dans l'interview. Donc pourquoi cette chanson Tu arriveras? Tout simplement puisqu'il l'a interprétée live pendant le générique TV Party dernière édition à Japan Tour dans une version exclusive. Donc c'était un petit clin d'œil. Et donc tout de suite après, la deuxième partie de l'interview. Voilà.
Ouais. Et puis après, on vous retrouvera Ekel et Jekyll, c'est-à-dire nous, pour vous parler d'autres choses.
Ekel et Jekyll.
Moi, je sais pas, ça me vient comme ça, on parle de générique. Alors voilà. Allez, c'est parti pour cette superbe interview exclusive, Génération Manga.
Salut à tous, c'est Génération Manga. Alors, comme vous le savez, nous couvrons le Japan Tour en exclusivité cette année avec des artistes que nous apprécions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Anthony Cabella. Donc, je suis sûr que vous le connaissez. Vous chantez tous ses chansons. Si je vous dis par exemple Attrapez-les tous, vous pensez à Pokémon, bien sûr. Jean-Marc Anthony, bonjour.
Bonjour, bonjour, et merci pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir accepté cette interview.
Avec plaisir.
Donc, on va parler de ta carrière, de ton travail, mais pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les artistes qui t'ont donné un jour envie de faire ce métier ?
C'est très éclectique et disparate. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours d'ailleurs Stevie Wonder. J'ai aimé aussi des gens comme Jacques Brel. Il n'y a pas que des morts, hein. Il y a aussi des vivants. Mais j'ai aimé aussi Claude François, pardon. des tas d'artistes un peu plus contemporains, Lenny Kravitz. Ce sont tous des gens qui avec des énergies différentes, avec des sujets différents, avec des envies différentes et un message différent. Qui m'ont touché, qui m'ont donné envie de faire ce métier.
Alors, quel a été ton cursus musical finalement, ta formation ?
Mais en fait, je suis d'une famille où on chante tout le temps. Donc déjà à la base, je chantais. J'ai bizarrement commencé professionnellement par la danse. Et puis de là, je me suis mis vraiment à prendre des cours de chant. Donc j'ai d'abord été à l'académie, et puis j'ai pris un professeur privé. Et puis j'ai commencé à faire des concerts et de là des enregistrements, des disques, etc.
Quelle a été ta première expérience professionnelle dans le sens enregistrement ou scène, par exemple ?
Scène, en fait, j'avais 14 ans et c'était un spectacle d'école, mais ça avait très bien marché et donc en fait notre école avait été prise pour faire un plus grand spectacle avec d'autres écoles et voilà, c'était ma première grosse expérience sur scène.
Alors, comme je l'ai dit et comme tout le monde le sait, Pokémon, c'est devenu un générique culte. Comment tu es arrivé à enregistrer ce générique ? Comment as-tu été recruté pour ce projet ?
un petit peu par hasard, dans le sens où je travaillais dans un studio à Bruxelles qui faisait du doublage d'une part et de la musique de l'autre. Et donc le projet canadien Pokémon est arrivé en Belgique. Et donc ils ont enregistré dans ce studio pour faire les doublages et donc ils ont posé la question de savoir si le studio avait des gens qui pouvaient chanter le générique, et ce jour-là j'étais là et donc on me l'a proposé et depuis ils étaient assez satisfaits, et donc du coup on a continué pour les autres saisons.
Donc c'est un générique d'animé japonais. Est-ce que, avant d'enregistrer ce générique, toi-même tu étais déjà fan d'animé japonais ?
Oui, j'étais très fan de manga, mais j'avais pas les connexions et là où j'étais, c'était difficile d'en trouver. C'était pas comme maintenant. Maintenant, oui, ce générique il a quand même 20 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver des mangas. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. Mais j'adorais ça. J'adorais ça. Ouais.
Est-ce que au moment où tu l'enregistrais, tu imaginais que 20 ans plus tard, ça serait un des génériques les plus cultes en France de la Japanime ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que clairement, c'est vrai que on savait que aux États-Unis il y avait un franc succès et que ça allait arriver en Europe, mais jamais on aurait pensé que 20 ans après il y aurait un tel engouement. C'est une énorme et une belle surprise.
Alors il y a eu d'autres génériques, il y a eu Beyblade, il y a eu Yu-Gi-Oh aussi. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de studio ? Ça se passait comment ? Plusieurs prises, un travail assez conséquent ?
En fait, le milieu actuel, ou en tout cas au moment où j'ai enregistré le milieu des génériques, ça se passait, c'était un petit peu, comme il y a toujours des histoires de confidentialité, on n'a jamais l'occasion d'écouter les morceaux avant de les faire. Donc on arrive en studio et c'est à ce moment-là qu'on découvre le morceau et qu'on découvre les paroles sur lesquelles on doit chanter. Donc on essaye d'adapter. Donc c'est un petit travail et une fois qu'on est prêt, ben on passe dans la cabine et on enregistre. Et donc en fait souvent ce qui se passe c'est que on enregistre un générique et puis après la session est terminée, on s'en va. Et parfois on a de la chance et on peut avoir un exemplaire de ce qu'on a enregistré. Parfois c'est carrément interdit parce que pour des règles de confidentialité, puisque la plupart du temps quand on enregistre le générique, la série n'est pas encore sortie, ou alors en tout cas pas la saison. Et donc voilà. Et donc ce qui fait que après souvent on est appelé pour d'autres génériques, etc. Et donc en fait parfois on n'a aucun souvenir du générique qu'on a fait, en fait, parce que ça change tellement et on l'a juste fait ponctuellement et puis la série ne sort que parfois un an après ou 6 mois ou parfois plus, et donc voilà. Mais c'est toujours un plaisir de faire, c'est une gymnastique qui est très grisante.
Alors, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant quand on est un artiste multifacette comme tu l'es, avec différentes influences, d'être surtout connu pour un générique finalement ? Est-ce que tu n'as pas envie de dire au public, mais je sais faire d'autres choses, je vais vous le prouver
Mais en fait, personnellement, j'ai pas ce problème-là, dans le sens où je travaille dans la musique, je fais des concerts, c'est souvent des concerts dans le milieu des covers, comme on appelle. Mm-hmm. On voyage un petit peu à travers le monde et donc en fait on rencontre des gens qui certes ne savent pas que j'ai fait le générique de Pokémon, mais voilà. Donc dans mon métier je suis à ma place et donc j'ai pas ce problème là et du fait que mon image n'est pas encore, on connaît plus ma voix que mon image, donc les gens sont assez surpris quand ils me voient et quand ils apprennent que c'est moi qui ai fait le générique et finalement ça me va comme ça.
Voilà, donc pas de regrets finalement.
Non, que du plaisir.
Alors, tu as été recruté pour le générique TV Party, donc un concept bien connu de nos auditeurs, puisque notre émission est partenaire de ce programme. Comment tu as été contacté et quelle a été ta réaction quand on t'a dit, on voudrait que tu chantes Pokémon en live ?
Mais en fait, l'instigateur du projet, Rui Pasquale, m'avait contacté quelques années plus tôt pour une interview, pour un magazine dans lequel il écrivait. Il m'avait contacté pour une interview, et donc on avait gardé les contacts, ça s'était très bien passé. Et puis, sachant ce que je faisais, puisque forcément j'avais tout dit pour l'interview, quelques années après, il m'a demandé si ça m'intéressait de faire le générique, et je me suis dit pourquoi pas, et ça semblait être une belle aventure, et effectivement c'est une super aventure, et donc je prends beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des gens et de voir un petit peu les effets qu'a eu sur les gens le générique.
Le matin quand tu ouvres les yeux, que tu regardes autour de toi, tu réalises que tu es heureux, la chance t'a souri plus d'une fois. Il est temps d'achever ton parcours, d'avoir le cran, de croire en toi. Passe à l'action, c'est à ton tour. Depuis toujours dans ta tête résonne, un jour tu seras maître Pokémon. Tu atteindras le ciel, faut que tu décolles. C'est ta destinée, déploie tes ailes et vole.
Tu réussiras si tu le veux. Tu réussiras si tu le veux. Ton envol vers d'autres cieux, tu y arriveras si vraiment tu le veux.
Tes objectifs, tu dois les suivre. Écoute ton cœur pour survivre. N'oublie pas que tu dois toujours tenir parole. Déploie tes ailes et vole.
Tu réussiras si tu le veux. Tu réussiras si tu le veux.
Déploie tes ailes.
Ton envol vers d'autres cieux.
Prends ton envol.
Tu y arriveras si vraiment tu le veux.
De retour avec Jean-Marc Anthony Cabella qui nous fait le plaisir et l'honneur de aujourd'hui répondre à nos questions dans Génération Manga. Donc on en était au générique TV Party, une expérience qui te séduit puisque tu avais déjà participé à Marseille, donc aujourd'hui à Tours. Donc tu es partant pour ce genre de projet.
Oui, je suis partant pour ce genre de projet. Bon, après je me rends bien compte aussi que par exemple à Marseille c'était ma première sortie. Et donc, bien sûr, c'était une surprise, c'était un événement. Bon, maintenant, ça va, je suis sorti. On me connaît, on sait. Mais ça reste un plaisir, c'est gai d'aller à la rencontre des gens, de voir. Et puis tout cet univers de tout, il y a, parce qu'il n'y a pas que les mangas, il y a tous ces gens qui sont costumés, etc. Et c'est fabuleux, et puis l'ambiance, c'est... j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup.
Est-ce que tu t'attendais à un accueil comme ça, sur le générique TV Party?
Mais on m'avait prévenu. Bon, après, c'est une chose de le dire et c'est une autre de le voir, quoi. Non, je m'y attendais pas. Je pensais m'y attendre, mais en fait, non, je m'y attendais pas du tout. Et c'est que du plaisir. C'était fabuleux, ouais. Ouais. Et voilà, après, bon, ben voilà, ça, c'est des salons, donc ça dure 2 jours. C'est 2 jours de folie. Bon, après, il y a la réalité. Et puis, on y retourne, et puis voilà, c'est bien.
Si on te recontactait pour enregistrer des génériques à nouveau d'animés, est-ce que tu accepterais ou est-ce que ça fait partie du passé finalement ?
Non, d'ailleurs on m'en a déjà demandé et non, c'est toujours avec plaisir. C'est toujours avec plaisir. En fait, la série Pokémon, si j'ai pas continué, c'est pas spécialement un ras-le-bol ou une envie d'arrêter, c'est tout simplement parce que forcément les épisodes viennent des États-Unis et on copie le générique en fait américain et le générique était fait par une fille, donc du coup ben, ils ont pris une fille, la boîte qui m'employait à ce moment-là a refilé le projet à une autre boîte qui, eux, ils ont leur chanteur, etc. Et donc, forcément, pour la suite, ben, ils ont pris leur chanteur à eux, ce qui est tout à fait normal dans le milieu. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de souci, mais c'est comme ça que ça s'est arrêté. C'est pas moi qui ai décidé ou qui ai eu envie ou qui en a eu marre. C'est, voilà. Et donc, quand ils m'ont rappelé pour refaire pour la saison 17, je pense, si je me trompe, pour refaire le premier générique, ben, j'ai accepté avec plaisir parce que j'aime beaucoup ça et que c'est toujours gai à faire.
Quelle est ton actualité actuellement? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles?
Et pour le moment, je travaille sur... il y a toujours ce groupe de covers avec lequel on tourne assez bien. Mais bon, ce sont souvent des longues dates. On fait des tournées de 3 mois ou de... Bon, la plus grosse était de 6 mois, mais en fait, on essaye de que ça soit un petit peu moins long. Mais en dehors de ça, en fait, j'écris aussi des morceaux. Et il y a un projet qui me tient fort à cœur, qui prend énormément de temps, forcément, puisque c'est une autoproduction, et de 2 morceaux que j'ai écrits et qu'on arrange avec des amis. Et voilà. Et après, le but, c'est juste de terminer un projet. Après, si on a de la chance et qu'il va plus loin, tant mieux. Mais l'important, c'est déjà qu'il nous plaise et qu'on soit content du résultat.
Donc, tu nous parles donc projet de cover. C'est quels sont les titres en fait, sur ce projet?
Dans le projet de cover, en fait, on fait vraiment de tout. On passe de bon, on fait beaucoup de medley, mais voilà, on passe de tous ces gens qui font danser en fait. On passe de Justin Timberlake, on fait le James Brown forcément parce que voilà, on fait aussi du Adele, on fait enfin un peu tous les morceaux qui marchent et qui font danser les gens et qui leur permettent de se sentir bien et les morceaux qu'ils reconnaissent parce qu'ils ont entendu à la radio, etc. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait dans le groupe de cover. Et dans l'autre projet, ce sont des morceaux qui sont plus personnels.
Donc, tu viens de nous dire que tu composes des chansons. Alors, en fait, d'où vient ton influence? Comment naît l'inspiration? Est-ce que tu fais référence à ta vie personnelle, tes sentiments qui t'aident, de la littérature, des films, pourquoi pas? Quel est ton secret, finalement?
En fait, tout m'inspire. Donc, je fais autant des chansons entre guillemets légères que des chansons qui sont peut-être un petit peu plus profondes, des chansons qui sont des coups de gueule. Parce que voilà, la vie, elle est faite de ça. Et en fait, oui, c'est ça. C'est la vie qui m'influence. En fait, c'est les choses qu'on vit, les choses qu'on retient, les choses qu'on a besoin d'exprimer, les choses qui nous dérangent, les choses qu'on adore aussi. Enfin, tout ce qui nous fait vibrer, en fait, autant dans le positif que dans le négatif, et ce besoin de l'exprimer par la musique.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de percer dans ce métier, devenir artiste, simplement ?
Disons que j'ai pas de conseil à donner. La seule chose que je peux faire, c'est donner des renseignements, dans le sens où pas alerter, mais expliquer qu'en fait, dans ce métier, ce qui est important, c'est le travail. C'est clair que quand on voit quelqu'un qui est au top 50 et qui marche bien, on le voit, il ou elle est relax, cool, tranquille, etc. Mais en fait, il y a énormément de travail derrière et dans ce métier, il n'y a pas de secret. Il y a un travail à fournir journalièrement et ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il faut pas être frileux à ce niveau-là. Il faut vraiment tout donner et tout le temps, il faut être prêt, en fait. Donc, oui, ça c'est l'histoire. Je pense aussi que il faut pas trop voir le côté des gens qui sont arrivés, parce qu'avant d'arriver, à part ceux qui ont beaucoup de chance, tous les autres ils ont énormément travaillé. Donc, il faut juste savoir que oui, c'est le travail avant tout. Et ça prend énormément de temps. Ça prend du temps sur la famille, ça prend du temps sur les amis, ça prend du temps sur les loisirs. Et voilà, donc il faut être prêt.
Voilà, on peut aussi se servir, comme l'on fait beaucoup, puisque le marché est quand même difficile, de l'outil Internet pour se faire connaître. Et pourquoi pas s'autoproduire avec un mouvement participatif. Beaucoup de possibilités aujourd'hui.
Tout à fait, il y a énormément de possibilités. Et c'est de là dont partait mon discours du fait qu'il faut être prêt. C'est que quand on a des opportunités et qu'on a des portes qui s'ouvrent, c'est tellement compliqué, même s'il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition pour y arriver. Quand on a une porte qui s'ouvre, il faut absolument saisir sa chance. Il faut foncer et donc il faut vraiment être prêt à donner le maximum et donc il faut vraiment être prêt.
Est-ce que tu as un message pour tous tes fans qui sont nombreux, puisque dans beaucoup de soirées karaoké, Pokémon est un des titres fétiches. D'ailleurs, mon collègue Eddy, avec qui je fais l'émission, qui chante beaucoup en karaoké, Pokémon est sa chanson fétiche.
Ah ouais. Mais en fait, voilà, si j'ai un message à adresser aux fans, c'est un grand merci. C'est vraiment un grand merci, parce que je suis le plus honoré, en fait, de savoir que voilà, un travail que j'ai fait puisse perdurer et puisse plaire à autant de personnes, et que cette personne l'exprime de cette manière-là, le message, c'est un grand merci.
Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ta carrière, de tes projets. On espère bien entendu entendre prochainement tes nouvelles chansons et avoir le plaisir d'en reparler avec toi. À bientôt.
À très bientôt. Merci.
Voilà, c'était donc l'interview exclusive de Jean-Marc Anthony Cabaya, le chanteur de Pokémon.
Voilà, mais pas que, donc je vous encourage vivement à écouter ses autres travaux, et puis surtout d'aller le voir en live. C'est vraiment un excellent chanteur, un très bon artiste, une superbe voix, vous allez vraiment vous éclater. En plus, il met la pêche sur scène, donc si vous avez l'occasion, c'est des moments à ne pas rater, bien entendu. Donc je crois que l'ami Eddy a un petit bonus pour... compléter, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça,
parce que comme vous le savez, il n'a pas chanté que Pokémon. Hein. Donc, comme on l'a dit, il a chanté Beyblade, il a chanté
Yu-Gi-Oh,
même si on chante pas beaucoup là-dessus, en l'occurrence.
Puis il y avait,
et surtout, il a chanté le générique, là, qui, là, pour le coup, est pas terrible. Je trouve franchement la chanson pas top. Mais sur la meilleure série des Tortues Ninja, parce que je vous rappelle que la meilleure série des Tortues Ninja, donc je le rappelle au cas où vous vous rappelleriez pas, c'est celle des années 2002. Parce que c'est celle qui était la plus proche du comics original. Parce que je vous rappelle que les Tortues Ninja en comics original, c'est beaucoup plus violent, c'est moins cuculapraline que le dessin animé des années 80. Dont la chanson est, elle, par contre, excellente, hein, chantée par Peter Lorne. Et voilà quoi, mais la chanson c'est pas forcément ça. Alors je la cherche.
Voilà. Donc on va avoir droit à ce petit bonus. Oui, tu fais bien de parler de Peter Lorne, que l'on retrouvera également prochainement dans l'émission. pour une interview où, pareil, il nous parlera de sa carrière. Vous allez voir, elle est énormissime. Il a fait énormément de choses. Il a travaillé avec de très grands artistes. Il compose lui-même. Oui, oui. Il a sorti d'ailleurs un magnifique album qui s'appelle Colorado. Il nous racontera tout ça. Et bien
entendu, on trouve ça facilement?
Alors, il y a quelques temps, on arrivait encore à le trouver, ça devient un petit peu compliqué. Alors, de temps en temps, Peter a quelques exemplaires donc à dédicacer.
Ah, bah,
donc,
ça c'est parfait.
Quand il fait le générique TV Party dans un salon, par exemple, on peut, s'il a amené quelques exemplaires, faire dédicacer un disque qui mérite à découvrir. Franchement, c'est excellent.
Là aussi, alors, je pense que tu n'as pas dû avoir l'occasion de lui en parler, mais tu sais qu'il y avait une cassette, 4 chansons des Tortues Ninja avec, 4 chansons en fait, il y en a une c'est une musique, mais il y a 2 autres chansons des Tortues Ninja et je suis pas convaincu que c'est lui qui les chante en fait. Ça sera intéressant de savoir si c'est bien
lui. On lui posera la question lors de notre prochaine rencontre.
Voilà, qui chante ces autres chansons. Mais pour l'heure donc, le fameux générique des Tortues Ninja de Jean-Marc Anthony Cabella, et vous allez pouvoir vous faire une opinion si jamais vous la connaissez pas. C'est parti.
Je suis des mutations,
Tortue.
Vivant dans les égouts,
Tortue.
Ces rois de l'action,
Tortue.
Sont toujours prêts à tout.
On peut compter sur eux.
N'obéir qu'aux codes des arts martiaux,
yeah.
Ne se battre qu'en légitime défense,
wow.
Utiliser la force quand il le faut,
yeah.
Mais il leur arrive de perdre patience. Leur pire adversaire,
attention à Shredder.
Ils sont téméraires, unis comme des frères.
1, 2, 3, 4.
Et voici les Tortues Ninja.
Ninja, je sais pas quoi t'en penses.
C'est sympa comme.
Moi j'aime pas du tout.
Générique assez dynamique, sympa, puis le plaisir d'entendre la voix de Jean-Marc.
La voix est bien, mais bon,
superbe,
voilà.
Superbe voix. Hein.
Personnellement, j'aime pas du tout.
Beaucoup de talent, à mon avis, pour chanter le botin, ça le ferait. Ouais.
Ça fait toujours mieux, mais franchement, je trouve que cette chanson est pas très recherchée.
Voilà,
et puis les paroles sont pas top.
Comme tu l'as précisé, générique de la saison, de la série.
De 2002. Hein.
2002, hein, pas celle.
La meilleure.
Pas celle que tout le monde, enfin.
Bah, pas les Tortues
anciens connaissent.
Parce que ça, c'est Peter Lorre.
Qui fait démarrer le phénomène.
Voilà. Ni l'actuelle de Nickelodeon, qui est chantée par je sais pas qui, puisqu'elle est restée en VO, là, pour le coup. Même en France. D'ailleurs, j'ai fait des petites recherches, mais j'ai appris ça, hein, tu vois, comme quoi j'apprends des trucs tous les jours. Nickelodeon. Tu sais, c'est la société qui fait Nouvelle Tortue Ninja. Ça vient d'un autre mot, en fait. Enfin, ça vient du mot Nickelodeon qui signifie quelque chose pour les Américains. Est-ce que tu sais ce que c'est?
Pas du tout.
Nickelodeon.
Pas du tout.
Eh ben, Nickelodeon, c'est un lieu de réunion, en fait, plus souvent un cinéma, en fait, où tu dois payer pour assister à quelque chose. Donc, le Nickelodeon, c'est ça, c'est un lieu de rencontre pour les gens. Donc, c'est pour ça, j'imagine, que le studio s'est appelé comme ça par la suite. J'en profite aussi pour verser un petit peu ma salive sur Nickelodeon, parce que à part les Tortues Ninja, c'est un studio qui ne fait que de la merde. Bob l'éponge, tout ça. Donc, voilà, ça c'est dit.
C'est aussi une chaîne satellite, hein, Nickelodeon.
Oui, oui, ça fait partie du grand groupe, du gros machin. Mais enfin, sachez que ça vient du mot Nickelodeon, qui existe déjà donc en anglais, et qui signifie donc un lieu de rencontre.
Voilà, c'est
voilà.
Dit.
C'est dit. Alors, un peu, c'était la page culturelle, c'était Miss Arte. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre dans les semaines qui arrivent?
Oh là là, beaucoup de choses. Alors prochainement, il y aura une spéciale Macross.
Ah carrément, allez, on fait
une
la totale.
Spéciale Macross, alors vous saurez tout de la genèse et tutti quanti. Vraiment la saga Macross avec l'un des papas, donc Monsieur Cabo Amori, que j'ai pu interviewer donc à la Japan Tour.
Donc on vous rappelle aussi que Macross va ressortir en DVD, en Blu-ray, tout le tralala.
Exactement.
Alors, soi-disant avec VO et VF, ce qui pose un petit problème, parce que je vous refais un petit vite fait le truc, hein, c'est que on a eu Macross via les Américains qui l'ont transformé en Robotech. Donc certes, en adjoignant Susan Close et Mospida qui n'ont rien à voir avec, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont changé aussi la bande-son. Et puis,
ouais,
ils ont changé un petit peu le scénario. Voilà. Et puis, ils ont modifié encore quelques petits trucs. Donc, en gros, je crois qu'il y a une histoire comme quoi la version originale japonaise ne peut pas être exploitée ailleurs qu'au Japon, parce que il y a des accords avec Karl Maxek et tout ça qui avait fait Harmony Gold, tout ça qui avait fait Robotech. Alors on a eu un coffret Macross en France, parce que je vous entends déjà. Sachez que ce coffret est illégal. Donc c'est sorti, mais il n'y avait pas le droit en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc le souci est toujours là. Nos amis de Kazé étant droit dans leurs bottes, j'imagine qu'ils vont pas s'amuser à sortir un truc dont ils n'auraient pas le droit. Surtout en plus en apprenant ça à Robotech et tout le tralala. Donc en fait, c'est un mystère qui règne quant à cette fameuse VO qui serait proposée. Est-ce qu'on doit entendre par là la VO américaine ?
Bah écoute, très bonne question. On verra lors de la sortie ou au moins lors de l'achat.
Voilà. Donc là, pour l'instant, le mystère est entier. Donc voilà. Donc si vous avez déjà le coffret illégal de Macross en VO, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Si vous avez déjà la version Robotech en français qui est sortie moult fois.
Alors, coffret qu'il a largement dédicacé d'ailleurs lors de Japan Tour.
Hein, oui, oui. Le illégal ?
Oui, le illégal. J'en ai vu plein là-bas.
Et est-ce qu'il a tiqué, lui ?
Ben non, justement.
Non, il n'est pas au courant, peut-être. Il s'en fout. C'est pas son souci. Hein. Ouais, moi, j'ai créé le truc, après, le reste, c'est pas.
Contrairement à un certain Gonagai qui ne signe que ce qu'il veut bien signer, qu'on lui demande.
Ouais, et que tu achètes au préalable, en plus.
Pas forcément. Donc, par exemple, au Magic, première édition, il signait uniquement un Excalibris. Qui était très beau.
C'était pareil à Japan Expo quand il était là.
Mais bon, il voulait signer que ça. Alors
que tu achetais.
Que Monsieur Kawamori vraiment signé tout. Il a vraiment tout signé, tout ce qu'on lui présentait.
Tout ce que tu veux. Même si ça n'avait rien à voir, mais c'était Bob l'éponge.
J'ai pas vu Bob l'éponge, faut pas exagérer non plus, mais
ça sort d'un mauvais goût. Mais
bon, voilà. Quand même très très sympa à ce niveau-là.
Alors donc ça c'est une parenthèse que je fais par rapport à ça. Et aussi vous savez qu'on vous dit tout hein, quand on a des news à propos de la Gloobie Boulga Party. Alors il y a des news, c'est qu'il y a un dernier invité qui a été annoncé, c'est notre ami Marie Dauphin. Donc elle sera là aussi pour chanter Bibi Fock et tout ça. Alors certains sont angoissés à l'idée qu'elle chante la version ukulélé de Bibi Fock qu'elle a fait, je vous rappelle, en vinyle. Si vous voulez l'acheter, vous allez sur Dame de Cœur Productions, il doit y en avoir encore, j'imagine.
Ou sur sa page Facebook.
Voilà, ou sur sa page Facebook. Enfin, c'est très facile de la contacter. Marie est absolument adorable. Hein,
et
donc,
vous pouvez
n'ayez
recevoir dédicacée en plus.
Ah oui, elle vous dédicace tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Elle est vraiment super proche, super sympa, super cool. Marie, un gros bisou. Tu nous écoutes. Donc voilà, donc on récapépète. Donc on aura Marie Dauphin, Dominique Poulain, Chevalier là qui chante les visiteurs du mercredi.
Sans Las Palais.
Non, les visiteurs de Noël, pardon. Et qui ne chantera pas apparemment. Et non, Jean-Pierre Savelli.
Qui sera là juste, qui fera acte de présence.
Voilà.
Et donc les personnes qui ont acheté le pack VIP pourront le rencontrer.
Voilà, le pack VIP à combien, tu sais
89, si je ne dis pas de bêtises.
Et sinon, les places premier prix, c'est quoi ?
Premier prix, dans les 40, je ne sais pas si c'était 39-40 euros dans ces prix-là, dans les gradins.
D'accord.
Donc, enfin, les gradins, c'est... non, c'est les étages en fait. C'est...
Oui, oui, oui.
Non, le Grand Rex, hein, c'est au Grand Rex, je vous rappelle.
C'est au Grand Rex, dont l'acoustique n'est pas géniale. On avait eu l'occasion de le voir. On vous prévient.
Ce
hein.
qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que bon, le Grand Rex, c'est une salle mythique parisienne qui était là il y a,
ce n'est pas un
là,
chien.
Il y a très, très nombreuses années. C'était un cinéma au départ. Il faut bien préciser. C'était
bah,
pas
là,
une
en même
de
temps,
concert. Donc, bon.
Là, en même temps, la Gloobie Boulga Party, ça va être plus cinéma là, pour le coup, puisqu'il va y avoir des tonnes d'extraits de vieux
oui,
dessins
voilà,
animés,
musique,
vieilles
c'est
séries,
un peu
vieux
bonus,
programmes.
Donc, c'est vrai.
Donc j'espère
mais
que...
Mais par contre, c'est une salle où on fait pas mal de concerts. Donc finalement, c'est un petit peu... C'est vrai
ouais,
que c'est
il faudrait peut-être arranger un petit peu
le truc. C'est plus pour le lieu, je pense, pour l'aspect que ça peut donner.
Peut-être qu'il est moins cher aussi.
Non.
Non, c'est pas moins cher.
C'est assez cher, Grand Rex.
Ah bon, bah alors si ça. Mais c'est, est-ce que t'as une alternative de salle avec autant de place
oui,
pour moins cher et avec meilleur son?
Enfin, moins cher, je sais pas, mais pour l'équivalent du même prix, oui, il y a plein de salles. Paris, c'est
avec un meilleur son.
Ah oui, largement, il y a plein de salles.
Ah oui, donc en fait, tu penses vraiment qu'ils prennent le Grand Rex pour le côté notoriété de l'endroit.
Ben, il y a le côté notoriété, il y a aussi si on veut diffuser des images, ben forcément ça, c'est facile.
Oui, là en l'occurrence, mais je parlais plutôt d'anime nostalgique.
Oui, c'est surtout cet aspect prestigieux, etc.
Et les concerts, tu sais, de One Piece, de Dragon Ball. Je crois qu'il va y avoir un concert de Dragon Ball Z d'ailleurs.
On en a parlé d'ailleurs de Kikuchi la semaine dernière.
Oui, voilà.
Et donc, oui, mais il y a des concerts qui, comme celui de Joe Hisaishi, ont lieu dans des salles sublissimes avec un très bon son. Le Palais des Congrès, par exemple, on en a parlé également.
Bah, ça aussi, c'est connu.
Il y a des, oui.
C'est plus grand, c'est pareil.
C'est un petit peu plus grand. L'acoustique est bien meilleure, d'une part. Et quelle que soit la position du spectateur, c'est-à-dire qu'on
donc, assis.
En bas ou c'est tout assis là-bas.
D'accord.
Tout en haut, c'est-à-dire en haut de la salle, on a une vue panoramique qui est vraiment phénoménale. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle est bien faite pour ça, cette salle.
D'accord.
Au niveau du son et au niveau visuel, c'est le top.
Donc voilà les dernières news du Grand Rex. Bah, là, on n'aura plus de news vu que maintenant, normalement, c'est bouclé. Hein. Ils nous ont dit que c'était le dernier invité, Marie Dauphin. Donc de ce côté-là, il n'y a plus de surprise, on va dire. Donc on vous passe, bien sûr, sur l'absence de certaines personnes. Et puis bon, on espère quand même que ça va marcher pour qu'il y en ait ailleurs, ma foi. Hein, parce que s'il y en a dans vos villes respectives, vous ferez une plaisir d'y aller. Mais je vous dis, si vous voulez vous déplacer exprès pour Paris, perso, je vous le conseille pas.
C'est une sorte de test, en fait. Voilà. Et, voilà. Donc,
il y a suffisamment de Parisiens pour y aller.
Il y a d'autres
dire.
Projets, donc dates qui sont à l'étude, notamment en Belgique. Bah, ils vont voir après, hein, le 1er juillet, si ça a bien fonctionné. Voilà. Voilà, on espère que ça fonctionne tout de même, puisque ce serait dommage que Jardin Initiative ne soit plus proposé au public.
Bah oui, c'est sûr, parce que quand il se passe quelque chose, on est bien pour que ça se passe vraiment. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qu'il y a un Bible fan de Bioman qui est sur les starting blocks et qui devrait bientôt sortir. Donc on vous tiendra au jus, bien sûr, dès qu'on a toutes les infos. 130 pages sur Bioman, pour tout savoir sur Bioman. C'est un beau truc, c'est une première en France. C'est la première fois qu'on fait un fanbook sur un Sentai. C'est même un fanbook
donc,
tout court,
sur la
d'ailleurs.
Série, les personnages, les machines, mais aussi voilà. Tout ce qui est technique, je suppose. Après, également, oui. Les interprètes, donc musique, mais aussi générique français, si j'ai tout compris. Hein.
Oui, apparemment, il y aura tout ça. Donc on n'est pas dans le secret des dieux pour l'instant, mais dès qu'on le saura, de toute façon, on est en contact avec les gens qui le font. Donc dès qu'on aura plus d'infos, on vous le dira.
Voilà, donc un bon livre, bah, sûrement à s'acheter pour Noël, pour le coup.
Et que je vous conseille fortement d'acheter à sa sortie, parce que ça, c'est le genre de chose qui va être en tirage limité, j'imagine, et que après, ça sera trop tard. Alors, il faudra pas venir pleurer, et puis aller sur eBay, l'acheter ou à 1000 balles. Hein. Donc,
alors,
moi, je dis ça, je dis rien.
Petit parallèle, on parlait justement du générique TV parti tout à l'heure. Ça te dirait pas d'écouter un titre de notre ami Michel, qui est un fervent participant du générique TV Party, donc Michel Barouille, vous le connaissez tous. Hein,
c'est notre grand ami.
C'est Vic le Viking, c'est La Bataille des Planètes, c'est Ekel et Jekyll, c'est Sport Billy, c'est tout un tas d'autres génériques. On a toujours plaisir à le retrouver, il a toujours la pêche sur scène. C'est un des grands moments aussi du générique TV Party. Donc,
et c'est vraiment un monsieur très humble,
très gentil,
et très sympa, très accessible. Donc n'ayez pas peur de lui, hein. Si vous le voyez, vous n'hésitez
après
pas une seule
show,
seconde.
Ou avant le show, s'il a le temps, il le fera avec plaisir, il n'y a pas de souci, vous dédicacera l'album, vos singles.
Voilà, ça commence à faire brut, hein. Mais c'est la bataille des planètes, bien sûr. Puisqu'on parle de la bataille des planètes, c'est aussi une série qui a souffert des corrections américaines. Voilà, comme quoi c'est
oui, puisque on en avait déjà parlé, mais au Japon, moult
fois.
Voilà, c'est Gatchaman.
Absolument.
Et donc, malheureusement, en France, on a eu la version remontée américaine, donc US, avec des ajouts, des modifications et beaucoup de suppressions.
Énormément de suppressions. Beaucoup d'épisodes intégraux qui sont basés à la trappe. Il y a 105 épisodes à la base. Ouais. Je crois que ça tombe à 85 aux US et ça tombe à 65 en France. Alors, tu vois, là, blablabla, ça.
Et puis, bien entendu, un soundtrack différent, qui est pas mal, mais.
Mais il y a quand même quelques musiques japonaises qui ont survécu.
Ouais, mais pas beaucoup, hein.
Oui, mais il y en a. Contrairement à Robotech où il y a des scénarios.
Ils ont vraiment fait
voilà.
un truc, c'est vrai.
Là, à l'époque, ils ont quand même gardé un petit peu, ils ont mélangé les deux BO, tu vois. Alors qu'après, ça a été la Razia directement. Et alors, justement, c'était pas fini avec ça, la bataille des planètes. Gatchaman 2 et Gatchaman F aussi, plus tard par notre ami Saban, a été transformé en patrouille des aigles. Alors, c'était une catastrophe aussi. Ils ont changé tout. Et puis, en plus, comme c'est pas les mêmes droits, tous les personnages ont été renommés encore. Et en fait, il existe trois versions américaines différentes de Gatchaman, à chaque fois des noms différents pour les protagonistes. Alors, plus les noms japonais, donc je te laisse t'amuser. Donc voilà, il y a de quoi faire, comme tu peux t'en douter.
Et d'ailleurs, à l'occasion, on fera une émission spéciale sur ces fameuses versions importées que nous avons eues, qui sont différentes de la version originale japonaise.
Oui,
il y a pas mal de choses, hein, donc on a fait référence de par diverses émissions, mais... On va vous faire un petit sujet là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire et puis il y a des choses à découvrir. Pas forcément bien toujours, mais
non,
c'est bien,
toujours, non,
c'est bien
non,
de
non,
savoir
non,
ce que forcément et le public a eu que cette version, donc imagine que c'est la version originale. Que nenni, que nenni.
Bah c'est ça, mais nous-mêmes, hein, on peut faire les esthètes comme ça, mais je veux dire, il y a une époque où on était comme vous, on ne le savait pas. Hein.
Ouais, et puis c'est vrai
c'est
que...
comme vous, on l'a appris un jour. Ah bon? Sans déconner. Cela dit, sur la bataille des planètes, il y avait quand même quelque chose qui sentait un petit peu le pâté. C'est qu'il y a quelques rajouts américains qui ont été donc redessinés. Et tu vois que les personnages sont clairement pas dessinés aussi bien que le reste du dessin animé. Alors là, tu disais, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moche tout d'un coup? Parce qu'ils ont dessiné dans un style très cartoon qui jure complètement avec le reste du dessin animé. Donc quand c'est encore cette Zar 7 et Anonos 1, tu te dis bon bah cela bon, ça voilà, passe ouais, voilà. Mais quand il voit la Force G jouer au ping-pong ou faire quelques trucs dans la vie de tous les jours, là ça fait mal parce qu'en gros ils ont un peu la tête qu'ils ont dans Scooby-Doo mais en pire.
C'est en fait pour
donc
faire le raccord scénaristique tout simplement, mais
ouais,
bon, c'est pas du plus
c'est complètement
effet,
raté.
C'est
donc là tu vois à 10 km que ça a pas été fait par les
alors,
Japonais
d'où
ça.
D'où l'intérêt de voir comme on le disait la semaine dernière les versions originales toujours d'une œuvre
quand on peut.
Quand on peut, puisque souvent on voit ou on redécouvre une série sous un autre angle.
Mais même juste en changeant la musique. Par exemple, Sankukai qui a été changé la musique en France. Quand tu redécouvres la VO avec la musique de Kikuchi, ça change complètement l'ambiance du truc. Hein.
On l'a toujours dit, la musique fait partie intégrante d'une œuvre.
C'est ça.
Et donne le ton, le rythme et peut amener parfois un succès. Il y a des séries qui ont connu le succès beaucoup avec leur BO.
Ça a bien
exemple.
Aidé, oui. Bah, par exemple, les Cités d'Or, quand tu essaies de la regarder en japonais avec l'autre musique,
voilà,
c'est
pourtant,
clairement
c'est,
pas pareil.
Ça le fait pas.
Ça
l'ambiance
fait moins.
Sonore est importante. Ulysse, pareil. Ulysse 31.
Ouais, mais Ulysse, c'est moins flagrant la différence, parce qu'il y a quand même quelques thèmes qui
les,
sont restés.
Alors, autant j'apprécie, hein, comme vous le savez, les soundtracks japonais, autant je suis absolument pas fan de celui d'Ulysse japonais. Mm-hmm. C'est vraiment très plat, je trouve. Ça ne met pas l'action en valeur, ça le fait pas.
D'ailleurs, je vous rappelle.
Comme quoi, on voit quand une erreur.
Je vous rappelle pour la musique d'Ulysse que notre ami Parallax va bientôt sortir enfin les vinyles. Hein. Donc en attendant.
Le coffret collector.
Voilà. En attendant, ceux qui ont déjà précommandé depuis fort longtemps ont reçu la semaine dernière les MP3 en HD revus et corrigés super beaux.
C'est
avec
pas
des
du
exclusives.
MP3, c'est du.
Du web.
C'est du web. Donc là.
L'expert.
Pour de la HD, forcément,
oui.
Il faut du web. Donc
du web.
Son HQ en 24 bits, en plus, excusez du peu, 24 bits, donc en codage studio, donc c'est parfait.
Ouais, donc c'est nickel, donc c'est pas trop tard, hein. Vous pouvez encore en commander,
oui,
j'imagine, hein, parce que vous allez voir sur le Facebook de Parallax, sur son site internet, hein, vous allez trouver ça sans souci. Sinon, David Collin, et il vous répondra aussi
voilà,
sur
donc,
la marche à suivre.
Si vous avez précommandé le collector à l'époque ou l'un des packs qu'il y a eu sur Ulule, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a eu différents niveaux avec des packs exclusifs.
Mmh.
Donc je me rappelle pas le nombre exact, mais il y en a plusieurs. Il y avait le pack Olympe, par exemple.
Le bien nommé.
Certains packs qui étaient à 30 exemplaires ou 10 exemplaires, je ne sais plus exactement. Il y a plusieurs niveaux en fait.
Ouais.
Voilà, avec un contenu amélioré, donc avec des bonus en plus par rapport à ça, et un prix bien entendu différent.
Et sinon, il ne reste plus que 6 jours pour faire le Ulule de Super Rider. Alors, c'est nos amis Crocofilm qui sortent ça. En fait, c'est un montage taïwanais de films de Kamen Rider qui était sorti à l'époque en français, et couplé avec un autre film qui est moins intéressant. Voilà. Et ça sort en DVD, c'est Ulule. Alors, je vous rassure, les gars, ils ont déjà 164%, donc de toute façon, ça sort, il n'y a pas de souci. Mais ces DVD ne seront pas dans le commerce. Donc, si vous voulez avoir cette curiosité, bah, c'est maintenant qu'il faut la prendre, parce qu'après, ça sera un peu plus compliqué. J'imagine qu'ils auront encore quelques exemplaires, parce que je crois qu'il y en a à peu près 200 qui ne sont pas encore distribués. Donc, ils les vendront sûrement en VPC d'une quelconque façon. Enfin, c'est plus sûr de le faire maintenant. De toute façon, c'est bon. Ils ont fait leur 100%, donc le truc va être fait. Et c'est bien, parce que pour une fois qu'il y a un truc un peu toku, Sentai et compagnie qui sort, ça augure de bonnes choses. La communauté Sentai se bouge les fesses. Et ils sont peut-être pas beaucoup, mais ils se bougent. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Alors, on le rappelle aussi, nos amis de Télé 80, le nouveau volume, donc vers le 15 mai, si je dis pas
ça. Alors, à ce propos, est-ce que tu es au courant que notre ami Chris Renaud recherche activement un des 45 tours de Croque-Vacances, parce qu'apparemment, il ne l'a pas. Donc, ça veut dire que s'il ne trouve pas celui-là, bah, il ne sera pas sur le CD.
Ah,
tu n'es pas au courant.
Une piste à suivre.
Voilà, donc j'en lance un appel. Voilà. Si jamais vous avez des 45 tours de Croque-Vacances, n'hésitez pas à contacter Chris Renaud à Télé 80. Peut-être que vous avez le fameux disque en question. Parce qu'apparemment, il ne l'a pas, ou peut-être pas dans une si bonne qualité.
Est-ce que tu peux donner le titre déjà ?
Je crois que c'est la chanson de Croque-Vacances basique, mais c'est la jaquette où tu as Claude Pierrard et Isidore et Clémentine dessus, si tu vois à peu près. Sinon, tu iras voir sur le Facebook de Chris Renaud, il a mis la photo.
Très bien.
Donc il lui en manque un. Vous êtes sort, tout à fait sort. Donc,
voilà, dans 15 jours, dans un mois, pardon, vers 15 mai, si je dis pas de bêtises, en exclusivité, donc commandable sur la page Facebook.
Il n'y a que 300 exemplaires.
Alors attention, 300 exemplaires. Et donc il faudra attendre, si vous souhaitez par exemple acheter dans un réseau style FNAC et compagnie ou Amazon, encore un mois, je crois.
Voilà, et en plus, ça sera plus cher.
Et ça sera plus
donc
cher.
Il vaut mieux
le commander directement,
c'est vachement mieux.
À la source,
mieux.
Comme on dit. Voilà. Une compile qui est dédiée donc, aux émissions Croque-Vacances avec les chansons des bébêtes, là, qu'il y avait, les deux lapins.
Voilà.
Les chansons de Claude Pierrard, le générique et tout ça.
Les chansons, il fait beau, il fait chaud, voilà, et on va pas travailler. Par exemple. Prends ton seau, ton râteau, va faire des pâtés dans l'eau.
Ce sera peut-être le dernier, donc achetez-le. Hein. Ouais, si parce vous l'achetez pas, en tout cas, ça sera le dernier.
Voilà, parce que je vous rappelle que les précédents sont encore disponibles. Donc, si vous voulez le Ulysse, le Goldorak et le Génération Tokusatsu, allez-y. Parce que si vous êtes fan de Sentai, il vous faut le CD, quoi. Pour une fois qu'on vous sort quelque chose, si après vous achetez pas, ben on sort plus
voilà,
rien.
Le seul CD français de Tokusatsu.
C'est ça. Et en plus, il y a des inédits dessus, bon Dieu. Des inédits dans Ultraman 80 en version longue avec des nouvelles paroles et tout que vous connaissez pas. Donc voilà, je vous le dirai jamais
avec
assez.
Des bonus sympas, dont d'ailleurs on en a parlé, on fait un petit clin d'œil à Parallax qui avait refait une version maison
de Sankukai,
de Sankukai.
Du musique. Eolia.
Eolia, voilà, qui est du plus bel effet. Donc ça vaut le coup, une super pochette aussi. Donc si vous êtes fan de Toku, bizarre si vous ne l'avez pas encore acheté.
Oui, c'est pas normal. Et donc il y a aussi un pack justement avec le fameux Super Rider dont je vous parlais. Vous pouvez prendre le CD en même temps.
Voilà, donc les deux, vous avez les deux comme
donc,
ça.
Vous n'avez pas d'excuse quoi, je veux dire. Allez, on va s'écouter un petit truc un peu plus récent. Tu vas peut-être avoir les oreilles qui sifflent. C'est Miraculous Ladybug. Donc, mais ce qu'il y a de bien dans cette chanson, c'est qu'il y a notre ami Noam Caniel, donc le grand chanteur de Goldorak, des Entrechats, tout ça, qui officie la voix masculine. Donc c'est ça qui donne de l'intérêt à la chose. Et on se retrouve juste après pour vous dire au revoir.
Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Paris mystère, c'est mon histoire plutôt étrange. La magie noire me désespère et le chat noir n'est pas un ange. Ah, 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 amour chassé croisé. Ah, 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 mon cœur aime Adrien. Ah, 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 mais lui ne veut m'aimer que lorsque je deviens une ladybug. Porte bonheur, lady magique et lady chante. Super puissant pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre éperdument. Ah, 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 amour chassé croisé. Ah, 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 j'ai peur d'aimer pour rien. Ah, 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 celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin.
s'est croisé. Mon cœur aime Adrien. Mais lui ne veut m'aimer que lorsque je deviens. Super puissant pour la victoire, j'en fais serment. Je me bagarre éperdument. Amour, ça s'est croisé. J'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin.
Une ladybug porte bonheur, lady magique et lady chance. Une ladybug, lady du cœur.
Voilà, c'est un des rares génériques récents que j'aime bien. Mais je suis intéressé à cause de Noam, enfin ou grâce plutôt.
On vous rappelle Noam, donc chanteur, auteur-compositeur. Donc il s'est fait connaître en France, il y a de ça bien longtemps, c'était en 78 avec le générique.
Enfin, il était connu avant avec ses chansons en tant qu'enfant.
On va dire connu du grand public, c'est vrai qu'il a enregistré pas mal de choses.
Je crois qu'il y avait 2-3 chansons qui avaient marché avant quand même, Maman je sais pas quoi.
C'était
là.
Resté quand même assez, c'est il n'y a pas eu l'explosion de Goldorak, puisque Goldorak il en a vendu.
2 millions.
Et voilà, ce qui n'a pas été le cas avec les autres disques. C'est vraiment ce qu'il a transporté, on va dire, auprès du grand public.
Au moment où il finissait sa carrière en fait. Idem à sa carrière quand elle était finie, parce que ce qu'il faut dire c'est que c'était un enfant chanteur et quand il a mué il chantait plus aussi bien
voilà, mais ça a été aussi l'occasion de par ce générique de pouvoir par la suite en chanter d'autres, de proposer ses services à l'équipe Saban,
de façon anonyme,
de composer après comme on le sait maintenant pour la nouvelle saison des Cités d'Or, etc. Une carrière intéressante, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs de Monsieur Noam, il y a beaucoup de choses à dire, une carrière très riche et très peu connue du grand public.
En l'occurrence. Et je vous rappelle que nos amis Télé 80 avaient aussi sorti un CD avec Noam chantant japonais. Et ils en avaient plein encore sur les reins, donc si vous voulez cette curiosité, vous la trouverez sûrement très facilement.
Alors il y avait un autre CD qui était intéressant, qui était sorti chez FLG.
À tes souhaits. À dire.
Un double donc, de Noam, où il y avait donc, sur le CD 1 des chansons de générique. Donc, il y avait des choses un peu moins courantes comme Hulk, etc.
Spider-Man, ces trucs-là.
Entre autres. Et le deuxième, donc, ces fameuses chansons qu'il avait fait, qui n'ont rien à voir avec des génériques, des chansons plus personnelles.
Oui.
C'est un bon disque pour retrouver les génériques.
Surtout que certains n'ont pas été appréciés à part là.
Donc, pour avoir ces génériques sur CD et pour découvrir des choses un peu moins connues. C'est un artiste intéressant, finalement.
Voilà. Et notre autre artiste intéressant avec lequel nous allons nous quitter.
Ouais. Voilà, dont nous avons parlé la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, et dont nous aurons hautement l'occasion de reparler dans les prochaines semaines.
Moult fois, bien
un
sûr.
Grand monsieur de la chanson française, monsieur Jean-Jacques Debout.
Voilà. Donc Jean-Jacques Debout, qui est le mari de Chantal Goya et qui a bien sûr composé l'énorme Capitaine Flamme, entre autres.
Cultissime en France.
Mais il a aussi composé et interprété d'autres chansons comme D'Artagnan, la D'Artagnan avec les chiens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce dessin animé, bon, bien sûr, t'as le générique D'Artagnan, un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire, là. Donc c'est une coproduction espagnole, je vous le rappelle, hein, dont il y a une suite uniquement faite par les Espagnols qui est catastrophique. Et donc il a fait aussi en préambule un autre générique qui s'appelle D'Artagnan Trois Amis, et en fait on voyait donc des extraits d'illustration du roman de Dumas, et après ça enchaînait donc sur le truc avec les chiens.
D'ailleurs voilà. C'est le cas de la pochette de ce disque,
voilà.
Donc il y a une gravure de l'époque Dumas.
Voilà, c'est ça. Et cette chanson, elle est vachement bien. C'est D'Artagnan Trois Amis. C'est lui qui la chante. J'imagine qu'il a peut-être eu d'y écrire
donc
aussi.
Donc là, auteur-compositeur pour celle-ci.
Auteur-compositeur, oui. Donc voilà. Et franchement, c'est une de que je préfère de son répertoire. Hein. Bien sûr, on met Capitaine Flamme à part parce qu'il ne l'interprète pas.
Oui, puis c'est cultissime. Capitaine Flamme, on ne peut pas le comparer. C'est le générique, un des génériques les plus connus des Français. Un des
c'est
plus
ça.
Aimés aussi. Hein.
C'est ça. Bah, moi, quand je la fais en karaoké, tout le monde connaît. Hein. Même les gens qui n'ont jamais vu un épisode de Capitaine une flamme de leur vie.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, petite parenthèse, Jean-Jacques Debout donc, a différentes activités, mais entre autres participe à la tournée Achetendre et Tête de Bois, dans laquelle il fait un medley et où il interprète un petit bout de Capitaine Flamme. On vous fera écouter ça la prochaine fois.
Ah, c'est vrai, non, bah, je ne savais pas ça, qui chante un petit
peu. Et il a encore la pêche, hein, Jean-Jacques.
Ah, mais il n'y a pas de raison, hein. Donc on aura bien l'occasion de le voir, hein, j'en suis certain. Hein, voilà. On va se donner rendez-vous donc la semaine prochaine. Hein. Vous savez comme d'habitude que c'est pas Nasnarf.
Nigo.
Voilà. Et on va se quitter donc avec D'Artagnan trois amis, notre ami Jean-Jacques debout qui est bien assis.
Viens voir les trois mousquetaires qui mènent des vies de chiens. À cheval dans la poussière, ils sont sur tous les chemins. Quand ils s'en vont à la guerre, ils se battent vite et bien. Contre l'armée d'Angleterre, un pour tous et tous pour un. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Se bat sans vergogne, s'il ne connaît pas la peur. Un D'Artagnan de Gascogne, c'est montré qu'il a du cœur. Pour les ferrets de la reine, lui et ses joyeux amis, au pied de leur souveraine, pourraient bien donner leur vie. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets, que voilà, sont les cadets du roi. On sait que vous n'aimez guère ce que nous aimons le mieux. Disons les trois mousquetaires à monsieur de Richelieu. Mais pour l'amour de la reine, sans pitié pour Milady, ils gardent le cœur fidèle à tout ce qu'ils ont promis. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis.